Vous écoutez RTL.
Il y a 5 ans, mourait Nelson Mandela, militant anti-apartheid, devenu premier président noir d'Afrique du Sud, avec Florence Montaé, qui est journaliste à Notre Temps et qui signe un beau papier sur le sujet en partenariat avec RTL. Merci donc Florence. On va vous raconter ce destin hors norme.
Alors, bonjour d'abord, comment ça va Florence? C'est un plaisir de vous retrouver dans le studio de la curiosité.
Que se passe-t-il ce 11 février 1990 ?
Il se passe quelque chose qui est attendu depuis précisément 27 ans, 6 mois et 6 jours. C'est que le plus connu, le plus ancien des prisonniers politiques du monde est enfin libéré. Nelson Mandela, le combattant anti-apartheid, est enfin libéré.
Il y a beaucoup de monde ?
C'est un événement local, bien sûr, mais planétaire. Donc, il y a, depuis l'annonce, 8-9 jours plus tôt de sa libération, de tout le pays, il est dans une prison à côté du Cap, dans le sud du pays, de tout le pays afflue du monde, blanc, noir, tout le monde. Et puis, les caméras du monde entier sont là. Ça va être retransmis à la télévision partout. Il y a un certain nombre de gens, peut-être ici, se souviennent de ça.
Bien sûr. Et on attendait tous de savoir quel était le visage de Nelson Mandela, parce qu'on avait seulement des vieilles photos en tête.
Ça faisait presque 30 ans qu'on ne l'avait pas vu. Et son visage était devenu presque un logo. Il était partout sur des t-shirts, des affiches. Mais à quoi il allait ressembler?
Oui, il avait pris 30
ans.
Il
se ressemble, mais il est beaucoup plus vieux, évidemment.
Alors, dans quelques minutes, on va continuer à vous raconter le destin de ce géant. Et puisque c'était un peu que l'apartheid, ce que ça voulait dire, on se retrouve tout de suite sur RTL.
RTL.
C'est qui ? Nelson Mandela.
La curiosité est un vilain défaut.
Nelson Mandela est né en 1918 dans le village de Mvezo, en Afrique du Sud. À cette époque, les Noirs, pourtant les plus nombreux, sont mis à l'écart de la société.
Avec Anaïs Bouton et Thomas Hugues.
Et avec les specials dans les oreilles, un extrait de Free Nelson Mandela et Florence Montaigne, journaliste au magazine Notre Temps. Vous publiez en partenariat avec RTL un portrait, l'un de ces grands destins qui nous réunit régulièrement sur l'antenne d'RTL. Le grand destin de Nelson Mandela. Il naît dans quel milieu ?
Il naît dans un milieu rural, dans la province du Cap, une des 4 grandes provinces à l'époque. Et il est issu en fait d'une dynastie royale, c'est-à-dire son destin à Nelson Mandela. Mais Nelson, ce n'est pas son vrai prénom, mais on en parlera plus tard. Ouais. Son destin, c'est de devenir chef de son village, puisque son père est le chef et c'est une charge héréditaire. Et il appartient à une lignée, la dynastie des Tembou.
Mais il aurait pu devenir roi.
Il aurait pu en tout cas devenir chef. Il était une branche latérale, donc il n'était pas destiné à être vraiment roi de la province, mais il était dans une dynastie régnante. Et donc, il a été élevé pour régner, éduqué pour régner.
Et donc, son prénom, effectivement, et j'ai découvert ça en lisant votre article, ce n'était pas Nelson.
Non. Son nom de naissance, c'est Rolish Lashla.
Alors on prononce comme ça. Parce que nous, on l'a prononcé Rolilala.
Oui, mais c'est parce que j'ai un peu répété l'accent Xhosa, qui est donc l'ethnie de
Rolish Lashla.
Rolish Lashla.
Et ça veut dire quoi ?
Et ça veut dire, alors c'est pas la traduction littérale, mais ça veut dire qu'il cause des problèmes.
Donc, c'est drôle.
Ce qui est un prénom prémonitoire. Et en fait, à 7 ans, quand il part à l'école, ce qui est un événement, parce que c'est le premier de sa famille à aller à l'école, et bien, comme c'était la coutume, puisqu'on est dans un pays qui est colonisé, pour partie par les Anglais, pour partie par les Néerlandais, les Allemands, l'école imposait un prénom anglais. Et donc, évidemment, c'est pas lui qui le choisit.
Son
institutrice dit, tu vas t'appeler Nelson en hommage à l'amiral.
Ah oui.
On voit le hiatus historique, culturel, c'est complètement absurde. Et donc, il va endosser ce prénom.
En même temps, pour un destin international, c'est horrible ce que je veux dire, mais ça sonne mieux, parce que le Rolish Lashla, on aurait du mal à le prononcer.
Rolish Lashla, oui,
c'est une mauvaise vanne, je la retire.
Ça aurait été la dernière étape, quand même, d'un combat, qui était de lui restituer son identité, qui lui a été tout de même.
Cet autre surnom qu'on connaît beaucoup mieux, Madiba. Il vient d'où, il sort quand?
Alors, tout petit, on lui donne ce surnom. nom qui est en fait le nom de son clan. Il est du clan Madiba. Ouais. Et c'est une façon affectueuse de le désigner. Effectivement, souvent, quand on voit les films, quand on voit les interviews, les personnes qui sont très proches de lui, lui disent Madiba. C'est vraiment le surnom affectueux de Mandela. Ouais.
Alors, il est parti à l'école à 7 ans. Et à 9 ans, qu'est-ce qui se passe ?
Il a une jeunesse vraiment très heureuse. Il vit en plein air. Il n'a aucune conscience de ce que c'est le problème, des lois racistes, parce qu'il est vraiment dans son milieu. Il a une enfance très, très harmonieuse, très heureuse. Et à 9 ans, il perd son papa, qui meurt de la tuberculose. Et donc là, c'est une première fracture. Il va être recueilli et adopté par un oncle qui est roi d'une ville. Hein. On n'est plus dans un village, là. Il y a une sorte de saut de dimension. Donc, il rejoint la branche régnante dans une ville proche. Et il va poursuivre sa scolarité dans une école chrétienne, puisqu'il est chrétien, tout en restant au sein quand même d'une tradition. C'est très important d'avoir ça en tête sur ce que va devenir l'homme politique Mandela. C'est qu'il a vraiment, c'est un chrétien avec une pensée traditionnelle, qui est la pensée Ubuntu, et qui va vraiment irriguer sa pensée, son empathie, son ouverture fraternelle, sa capacité à pardonner, etc.
Il va faire des études supérieures, Nelson Mandela.
Il fait des études supérieures, puisqu'il va être avocat. Hein. Ça va être le premier avocat noir de Johannesburg, quelques années plus tard. Et donc, il entre, en fait, à 19 ans. Ça aussi, ça va être un palier très important, parce qu'à 19 ans, il entre à l'université de Fort Hare, qui est la seule université qui accueille des Noirs. Et il va se retrouver donc avec une petite mixité raciale, et surtout on va lui imposer en fait des tas de choses, dont de siéger dans des instances représentatives et d'opiner à des décisions qu'il ne partage pas, évidemment déjà. Mandela n'accepte pas ce genre de compromis.
Oui, parce que c'est une personnalité, c'est un caractère, c'est un rebelle, Nelson Mandela. Même quand on veut le marier, on vous raconte cette histoire dans un court instant sur RTL.
Nelson Mandela, c'était aussi une voix. Thomas Hugues, Anaïs Bouton.
Curiosité est un vilain défaut.
Les Sud-Africains ordinaires veulent que le passé soit connu pour être certain qu'il ne se répète pas. Sur RTL.
Assi Bonanga, Johnny Clegg, toute notre jeunesse, Thomas, Florence. Assi Bonanga qui veut dire nous ne l'avons pas revu. Merci François Latouche pour cette précision sémantique. Alors c'était Johnny Clegg évidemment, le chanteur d'Afrique du Sud, et puis la voix de Nelson Mandela, parce que Nelson Mandela a voulu consacrer un très beau portrait, Florence Montaigne, en partenariat avec RTL. Alors on en était, il est jeune, il est beau. Et puis son oncle, qui est roi, veut le marier. Que fait-il alors ?
Eh bien, la même chose que quand on l'oblige à siéger dans une instance qui désapprouve, il refuse. Et là, il refuse fermement, puisqu'il s'enfuit. Donc, il quitte le sud de l'Afrique du Sud et il monte à Johannesburg, qui est la plus grande ville. Et après ce premier contact, finalement, avec la loi blanche, hein, qui quand même oppresse copieusement la majorité de la population, il va à Johannesburg vraiment commencer sa formation politique. Il va retrouver un camarade de l'université qui est Oliver Tambo, qui est vraiment une figure aussi du combat anti à partir de l'ANC très, très importante. Et puis il va rencontrer Walter Sisulu, qui va être arrêté en même temps que lui, qui va partager sa captivité pratiquement pendant toute la durée de la captivité. Et en fait, ce trio d'amis va ensemble s'engager contre l'apartheid, qui n'a pas encore été à ce moment-là promulgué, mais qui, contre les lois racistes, adhérer à l'ANC, l'African National Congress, qui est le parti dominant, il y en a d'autres, mais qui lutte contre les lois racistes, et ils vont vraiment ensemble faire ce cheminement politique.
Florence Montaigne, on ne peut pas raconter toutes les étapes, mais il y en a une qui est vraiment essentielle. 1960, c'est vraiment un tournant dans la vie de Nelson Mandela, un tournant dans son engagement politique. Jusqu'à présent, il prenait la non-violence. Il va changer. Pourquoi ?
Alors, c'est vrai qu'il est très inspiré par Gandhi, par la non-violence. Il va pendant donc pratiquement 20 ans et faire de la résistance passive et des grèves, etc. En 1960, il va y avoir ce qui est connu pour être le massacre de Sharpeville. C'est un township, donc un quartier réservé aux Noirs, près de Johannesburg, où il y a une marche totalement pacifiste contre les passeports internes, parce que c'est une de ces choses qui restreint la vie des Noirs, qui va dégénérer. La police va tirer sur la foule, y compris sur des femmes, des enfants. Il va y avoir 69 morts, des balles tirées dans le dos des gens, enfin quelque chose d'extrêmement choquant à tout point de vue. Et à ce moment-là, Nelson Mandela dit « c'est plus possible, on ne peut pas se laisser brutaliser comme ça, on doit s'armer ». Et donc, il va créer la branche armée de l'ANC.
Juste, l'apartheid, c'était la même chose que la ségrégation aux États-Unis, des bus réservés aux Noirs et aux Blancs, etc., ou ça prenait une autre forme?
Alors, c'est encore pire, si on peut faire des gradations comme ça dans l'horreur. L'apartheid, c'est vraiment, le mot veut dire séparation. Donc c'est effectivement ce qu'on connaît aux États-Unis, mais avec une radicalité, une violence extrême, un rapport de population complètement dingue. On a donc les colons blancs qui sont arrivés au XVIIe siècle, qui représentent à ce moment-là, au moment où est promulgué l'apartheid en 48, 20% de la population. C'est-à-dire 80% de la population n'est pas blanche et n'a pas accès au vote. Interdiction de voter, interdiction des mariages mixtes, il y a eu une spoliation, une dépossession complètement dingue. Ils ne peuvent pas posséder de terres, les Noirs, sauf dans des espaces dits des réserves, qui représentent 13% du territoire. Ouais. Donc c'est 80% de la population. Donc c'est une spoliation en règle. Et évidemment, ils n'ont droit à rien, ils sont maintenus dans la misère, l'accès aux soins est impossible, à l'école, tout est dégradé, tout est...
Et donc, il y a cette phase, on va dire, d'action violente, cette branche armée. Nelson Mandela est arrêté. Il ne le sait pas encore, il va passer 27 ans en prison. Comment il est arrêté? C'est une dénonciation? C'est quoi?
Alors, il est arrêté en 62. Sur dénonciation, effectivement, de la CIA. Même si l'ONU va promulguer des résolutions, effectivement, à partir du début des années 60, condamner l'apartheid, il y a quand même beaucoup d'ambivalence sur maintenir le régime blanc en Afrique du Sud. Et donc, effectivement, il est dénoncé. Qu'est-ce qui s'est passé après le massacre de Sharpeville? C'est que ça a tellement secoué la population que, état d'urgence, interdiction de l'ANC. Donc, de facto... Mandela, il entre dans la clandestinité. Lui, il est devenu entre-temps un membre éminent de l'ANC. Il dirige l'ANC d'une des provinces, il est vice-président de l'ANC nationale. Donc, quand il entre en clandestinité, quitte le pays, va essayer d'armer la branche militaire, etc. Donc, il est dénoncé pour tout ça. Et comme ils ne peuvent pas prouver la rentrée des armes, ils vont le condamner à ce moment-là qu'à 5 ans de prison. Ils n'ont pas de documents pour le... Et puis après... Il va y avoir d'autres membres de l'ANC qui vont être arrêtés. Là, il y aura des preuves à charge de conspiration. Et Mandela va être mis avec ce groupe. Et c'est là qu'il prend perpétuité. En passant de près la peine de mort, il échappe de
peu. Il a failli être condamné à mort. 27 années de prison dans une cellule minuscule de Robben Island. C'est le prochain récit à venir sur RTL. Nelson Mandela au menu de notre curiosité.
RTL. Madame, monsieur, bonsoir. 27 ans de prison et 4 heures de liberté déjà pour Nelson Mandela, leader historique de la lutte antiségrégationniste en Afrique du Sud.
Thomas Hugues, Anaïs Bouton.
Et si cette libération n'est pas une fin en soi, elle est le symbole d'un changement radical de la politique du pouvoir blanc vers l'égalité raciale entre les deux communautés.
La curiosité est un vilain défaut.
Nelson Mandela qui sort de prison en février 1990. C'est la journaliste Florence Monteil qui nous raconte son histoire, son destin. Un homme libre, c'est le titre de votre article publié dans le magazine Notre Temps en partenariat avec RTL. Avant cette libération, 27 années, vous nous le disiez, c'était le prisonnier politique le plus âgé, celui qui passait le plus de temps en prison. Est-ce qu'il met à profit ces années de détention d'une certaine façon, Mandela?
Il construit, on peut dire qu'il construit son discours et sa légitimité qui va lui permettre après d'accomplir cette chose incroyable qu'est l'abolition de l'apartheid. Parce que pendant ces 27 années, toutes les personnes qui rentrent dans la prison où il est, donc Robben Island, puis après d'autres, mais 18 ans Robben Island, il partage son savoir avec eux, il les forme politiquement et il envoie des messages à l'ANC. Donc il y a une sorte de dialogue qui s'installe à tel point qu'on appelle ça l'université Mandela. Et Mandela en prison devient extrêmement connu. Il devient un symbole incroyable. Et il ne va jamais demander de faveur. Il va tout faire comme les autres. Il va en baver comme ce n'est pas permis. Être mis à l'isolement comme ce n'est pas permis. Il perd son fils aîné dans un accident de voiture. Il ne peut pas l'enterrer. Il encaisse. Et il va même aller plus loin. C'est qu'il décide d'apprendre. Alors ça, c'est ça la pensée Ubuntu. Il décide d'apprendre l'afrikaner, l'afrikaans, la langue des afrikaners, donc de l'ennemi.
La langue dominante.
La langue des blancs, dominants. Oui. Voilà. Leur histoire. Pour pouvoir dialoguer avec eux. Il se projette tout le temps, non seulement dans le dialogue de la négociation, mais dans la capacité à se réconcilier et à réconcilier son rêve d'une nation arc-en-ciel, donc d'une société multiraciale où toutes les races sont égales et peuvent vivre en harmonie. Ça a toujours été son projet. Ça traverse toute sa période de prison. Il va même être ami avec un de ses gardiens, un afrikaner. Et c'est ce qui va faire que quand il sort de prison, il a cette légitimité, cette aura absolument incroyable qui lui permet de dire... On ne doit pas chercher la vengeance, on doit arriver à se réconcilier et y met en place les commissions vérité et réconciliation pour que justement le pardon soit donné.
Et il aura le prix Nobel
93.
En 93.
Absolument. Partagé avec Frédéric de Klerk.
Le président sud-africain.
Le président sud-africain. Pour justement que ce soit une œuvre conjointe.
On a écouté, mais très brièvement, la voix de Nelson Mandela. Voilà ce qu'il dit quand il sort de prison.
Amanda, my friends.
Eh bien, mes amis. Mes camarades et mes concitoyens d'Afrique du Sud, je vous apporte mon salut à vous tous au nom de la paix, au nom de la démocratie, au nom de la liberté et pour tous.
Florence Monteil, on va terminer, Florence Monteil, par ce poème que Nelson Mandela récitait tous les jours en prison. Deux strophes, c'est Invictus, ça a donné son titre à un film d'ailleurs qui raconte l'histoire de Mandela.
Oui. Alors c'est un poème d'un poète anglais du 19e siècle qui récitait tous les jours et qui récitait aux co-détenus. Et les deux dernières strophes parlent d'elles-mêmes, c'est « En ce lieu de colère et de pleurs se profile l'ombre de la mort, et bien que les années menacent, je suis et je resterai sans peur. Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. »
Merci.
Merci beaucoup, merci Florence Monteil, d'être passée nous raconter la vie de ce géant, de ce héros Nelson Mandela, un homme libre.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut. Anaïs Bouton, Thomas Hugues.